France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En Mauritanie, tu trouves des policiers, tu trouves certains commissaires qui sont au courant qu'il y a le VIH. Mais pour eux, ce sont des populations qui sont vraiment hors la loi. Parce qu'une prostituée, elle est hors la loi. Un HSH, il est hors la loi.
Mais la population générale, elle est ignorée, elle est oubliée. Alors qu'eux, ils sont bisexués. Ils peuvent constituer une propagation au niveau de la population générale.
Le ministère a entamé un processus d'intégration de la prise en charge des malades. Vous avez des gens qui vivent avec le VIH, qui sont pris à part. Au lieu de le faire à part, il faut le faire dans le système de soins.
22% des décès liés au sida dans le monde se produisent dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La région a été à l'avant-garde de la réponse au VIH au début de l'épidémie, avec des programmes pionniers. Mais elle a ensuite pris du retard et la baisse des nouvelles infections est actuellement plus lente que dans les autres pays du continent. L'accès au dépistage et au traitement du VIH atteint 73% des personnes vivant avec le virus, ce qui est encore loin des objectifs visés. En juin dernier, les États membres des Nations Unies se sont promis de se mettre sur la voie de l'élimination du sida d'ici 2030, notamment en luttant contre les inégalités et en mettant les communautés qui connaissent la situation sur le terrain au centre de la riposte. Mais en Mauritanie, la stratégie des pères éducateurs soutenue par les instances internationales se heurte à des résistances. Dans cette république islamique, les prostituées doivent se cacher et l'homosexualité est punie de la peine capitale. En découle pour les personnes à plus fort risque de contamination une difficulté d'accès aux soins qui constitue un obstacle majeur à la lutte contre le VIH. Sida en Mauritanie, comment atteindre les plus vulnérables? C'est un reportage signé Tara Schlegel. Aujourd'hui dans Grand Reportage, nous accueillons Winnie Bianihima. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice exécutive de l'ONU SIDA, le programme commun des Nations Unies sur le VIH, et Marguerite Capelle, à vos côtés, assurera la traduction. Nous allons écouter ensemble le reportage de Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour.
Alors, dans quel cadre êtes-vous partie en Mauritanie?
Eh bien, je suis partie à la rencontre de l'association SOS Pères Éducateurs. C'est une association qui a connu un essor assez incroyable ces dernières années, grâce à son approche communautaire que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'elle travaille directement avec les communautés homosexuels, prostituées, en formant des relais communautaires, donc des gens qui savent parler dépistage, mode de protection, etc., et qui sont recrutés au sein de ces groupes, des groupes qu'on nomme des populations clés dans le jargon des organismes internationaux. Et c'est dans ces populations clés que se concentre l'épidémie aujourd'hui. Alors, on aura l'occasion de répéter ces chiffres, hein, mais il faut garder en tête qu'en Mauritanie, le nombre de personnes infectées par le VIH atteint 23-24% presque chez les homosexuels, alors qu'il n'y a que 0,23% de malades du VIH dans la population générale. Bref, SOS Pères Éducateurs a multiplié par 6 ou 7 récemment son budget pour atteindre 1,5 million d'euros rien que dans les actions consacrées chaque année à la santé sexuelle et au VIH, notamment parce que l'association a été repérée par Coalition Plus. Coalition Plus, c'est un réseau d'associations qui luttent contre le sida un peu partout dans le monde et qui partagent leurs bonnes pratiques, les aident à trouver des fonds. Et au passage, c'est Coalition Plus qui a financé notre mission en Mauritanie.
Et votre reportage commence à Chami, à 240 km au nord de la capitale Nouakchott.
Nous sommes à Chami, une ville qui a poussé au milieu du désert. En plein printemps arabe, le gouvernement mauritanien a eu l'idée d'annoncer qu'on avait trouvé ici de l'or. Toute la jeunesse s'est ruée vers Chami. 57 habitants en 2015, 400 000 quelques mois après. Mais aujourd'hui, le meilleur site d'extraction est réservé à une multinationale canadienne. Chami est devenue une ville presque fantôme. Les jeunes qui travaillent ici déchargent des sacs de pierre dans des broyeuses pour le compte de leur patron.
Donc là, le jeune homme, il extrait la boue avec sa pelle. On est en plein soleil, hein, il doit faire au moins 35 degrés. Il est habillé avec un pantalon de jogging, des grosses chaussures. Il a un sweat, il a un turban noir, hein, des lunettes de soleil pour se protéger.
Ça fait combien de temps que tu fais ce métier?
Année 19, ça bâche.
Il a 19 ans, ça fait à peine une année et demie qu'il est là. Il dit que sa famille est restée à Nouakchott, il est venu seul. Il n'est pas en famille d'ailleurs, il est célibataire toujours.
On vit les seulement.
Ah d'accord, ils disent que parfois ils descendent en ville pour voir les filles qui sont là-bas. voir quand même les femmes qui sont en ville, parce qu'ici, ils ne voient pas les femmes. Non, il dit qu'il n'a pas de problème.
Et est-ce que tu es conscient du danger du VIH si tu rencontres des filles comme ça de façon occasionnelle?
Il est bien conscient de ça, ils prennent les préservatifs en fait. Ils disent que c'est les femmes dans les sites qui ont les préservatifs.
Et donc, combien est-ce que vous gagnez pour travailler ici?
Ils sont rémunérés mensuellement environ 7 000 MRU. Mais ils ont un extra parce que c'est eux qui déchargent les sacs des camions quand ils viennent. Et chaque sac, c'est à 10 MRU. C'est avec ça qu'ils peuvent sortir et aller en ville et vivre un tout petit peu.
Parce que ça coûte combien une fille?
Bon, c'est bien, il dit que pour les filles, c'est pas pareil, parce qu'ils disent que les plus grosses et les plus vieilles, elles ne sont pas trop aimées, et on leur donne 3 000. Mais les plus petites et les plus fraîches, on leur donne jusqu'à 4 000, 5
000. Merci. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Omar.
Ces jeunes femmes, dont plaisantent Omar et ses copains, sont venues en grand nombre à Chami, vendre leur corps aux jeunes célibataires. Mais elles le font en se dissimulant, car leur activité reste illicite.
Il fait nuit et on va aller faire le tour des maisons closes, ici à Chami, dans cette ville d'orpailleurs.
Donc ici, c'est la première façade, c'est des restaurants. On voit à 90% ou bien à 100%, c'est des restaurants, parce que c'est de toute façon, c'est interdit la prostitution ici.
Amadou est relais communautaire pour l'association SOS Père Éducateur. Il fait de la prévention contre le VIH auprès des prostituées.
Donc, il y a eu des mois, par exemple, il y a eu énormément de rafles où il y a eu beaucoup de restaurants qui ont été découverts.
D'accord, donc en fait, c'est les policiers vont dans le restaurant, font sortir tout le monde, arrêtent les prostituées, c'est ça?
Bon, en général, ouais. Certainement, ils les trouvent dans un acte, ou bien dans un acte sexuel, ou bien ils les trouvent dans un vagabondage, ou parfois aussi, ça peut être la sirène des voisins qui ne veulent pas que ces activités-là se fassent là, et viennent dénoncer ces actes, et après là, la police met une enquête en place, et quand ils découvrent que tel est le cas, les gens sont refoulés.
Non, je disais qu'en fait, qu'en Mauritanie, l'information n'est pas vraiment généralisée.
Bezaïd est l'un des fondateurs de SOS Père Éducateur. Justement, il est responsable de ce qu'on nomme les populations clés, les PS pour professionnels du sexe et les HSH pour hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, autrement dit homosexuels.
Tu trouves des policiers, tu trouves certains commissaires qui sont vraiment, ils ont déjà participé à des séances de causerie éducative ou des formations organisées par le ministère et ils sont au courant qu'il y a le VIH et il y a des ONG qui interviennent auprès de ces populations clés. Mais pour eux, les populations clés qui existent, ce sont des populations qui sont vraiment hors la loi. Parce qu'une prostituée, elle est hors la loi, un HSH, il est hors la loi, pour eux, à première vue. Bon, c'est naturel. Et j'ai donné l'exemple un peu du commissaire au niveau de la ville de Chami, lors du démarrage de ce projet, parce qu'il y avait une mission d'identification. Lorsqu'ils ont commencé un peu à parler des statistiques au niveau de la Mauritanie, il a commencé à pointer le doigt sur le sable pour dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas possible, quoi.
L'homosexualité, il voulait dire ou...
et non, pas l'homosexualité, c'est que la maladie elle-même.
Ils ne croyaient même pas que le VIH existait.
Ils ne croient même pas que le VIH existe. Ils nous disent non, ça c'est la maladie des autres pays. Ce n'est pas avec nous.
Mais là, tu parles d'un commissaire.
Je parle d'un commissaire de police. Et parfois même des médecins, parce que nous, on a formé des médecins. Moi, j'ai fait une première formation de prévention combinée pour tout un staff médical. Il y a des médecins, des sages-femmes, et ils n'étaient même pas au courant qu'avec la prise de médicaments, avec une charge virale indétectable, la personne ne contamine plus. Donc ça aussi, c'était une information nouvelle pour eux. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'informations et de sensibilisation cruciale au niveau du staff médical aussi par rapport à ces populations clés, par rapport à l'existence de la maladie.
Beaucoup reste donc à faire pour rendre la société consciente des risques du VIH, en particulier auprès de ces toutes jeunes filles qui exercent dans ces fameux restaurants.
Elle vient de Nouakchott.
Elle m'a fait 5 mois.
Je suis là depuis 5 mois. Je suis venue travailler ici. Quel travail exercez-vous ici? je fais de tout, je travaille dans plein de choses. Tu sais bien, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu vois de quoi je veux parler.
Et pourquoi est-ce que tu es venue ici, dans cette ville à Chami?
C'est rigolo. En fait, tout à l'heure, je lui ai posé la question, elle ne voulait pas répondre sur ça, qu'elle a rigolé. Elle dit, bon, j'essaie de trouver du boulot.
Mais à Nouakchott aussi, il y a du travail, non?
Non, je ne peux pas exercer ce métier-là à Nouakchott. À cause de la famille, principalement. Comme j'ai ma famille là-bas, ils peuvent me croiser et me reconnaître, alors qu'ici, personne ne me connaît. Elle dit, bien sûr que c'est un problème pour ma famille et pour moi, parce que tu sais bien que personne ne veut faire ce genre de travail. Personne ne veut entendre que son enfant fait ce genre de travail. Mais je le fais parce que je dois aider mes parents.
Et est-ce que tu as peur d'attraper le sida?
Est-ce que ragalgam sida? Oui, j'ai très peur d'attraper le sida. Et ça, en fait, c'est un truc pour conjurer le mauvais sort. Quand tu fais ce signe-là avec les mains.
Ah oui, elle a rembattu ses cheveux comme ça vers l'avant.
Ouais, quand tu fais ça avec tes oreilles, c'est pour conjurer le mauvais sort. Après, on sait que ce travail n'est pas un bon travail et on rêve d'en sortir. Donc, on prie pour que Dieu nous aide à en sortir. Mais SOS Père nous aide déjà là à avoir, à ne plus devoir acheter de préservatif. C'est une dépense en moi. Ouais, elle est attendue, donc on doit faire.
Ah, tu dois partir?
Elle a son client qui l'attendait, en fait.
La jeune fille s'est déjà levée. Elle préfère ne pas trop parler et insiste pour garder l'anonymat. À deux pas du vrai faux restaurant où elle exerce, SOS Père Éducateur a installé son nouveau kiosque, une petite maison qui n'ouvre que le soir pour distribuer des préservatifs, faire des dépistages du VIH ou juste discuter avec ces populations si difficiles à approcher. Hatra travaille pour SOS Père Éducateur. Son homosexualité est un atout.
Moi, je peux sentir comment il sent HSH comme moi. Surtout ici, il est féminé, il est très monté sa personnalité parce que vous n'êtes pas dans un pays ouvert. C'est un pays islamique.
Je vais vous expliquer.
Ouais. En fait, comme il vous a dit, quand on parle des populations clés, il faut savoir qu'on parle des professionnels de sexe et des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc, ces populations-là, quand tu n'as pas une personne au sein de ces populations qui peut les convaincre, qui a les mêmes attitudes, qui a les mêmes comportements, qui peut leur parler de leur situation, ils ne vont pas t'écouter. Moi, par exemple, qui ne fais pas partie de cette communauté, malgré que moi je me prends comme étant de leur communauté parce que je les connais tous et je m'entends très très bien avec eux. Donc si par exemple on prend Raphaël, supposons, et on l'amène pour faire une sensibilisation au sein de ces communautés, ils ne vont même pas le regarder, ils ne vont même pas l'écouter.
Parce qu'ils n'ont pas confiance ou...
Ils n'ont pas confiance parce qu'ils savent, ils vont dire lui, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre vie, quelle est notre réalité. Donc il ne va pas leur parler. Parce que nous, en fait, quand on va avec ces populations clés, on a un langage codé. Par exemple, nous, on nomme pas les choses à leur nom. Le préservatif, on ne peut pas le dire comme ça. On a un nom spécial pour ça.
Il s'appelle Houija.
Comment
c'est Houija.
Et donc ça veut dire quoi ces mots-là?
Houija, c'est chaussette. Dans la langue locale. Et dans notre langue, Houija, ça veut dire un outil.
Quand il est dit à taxi aux côtés des parents, ils ne vont rien comprendre. Parce que comme c'est une communauté en cachette, il vit en cachette, il ne peut pas montrer ses affaires.
Il n'y a pas que la distribution des préservatifs ou même le dépistage. Il y a aussi l'accompagnement de ceux qui sont déjà malades. En Mauritanie, l'épidémie est concentrée chez les homosexuels. 23% de toute prévalence, 9% chez les prostituées, 0,23% seulement dans la population générale. Il faut donc aider ces malades à entrer dans le système de soins pour bien suivre leur traitement, poursuit Bezaïd.
Le problème, c'est le fait de le pousser à intégrer la prise en charge. Et là, c'est là où commence le vrai travail. Parce que là, il faut le suivre, il faut le conseiller.
Le malade.
Le malade, ouais. Et c'est pour cela aussi qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de perdus de vue. C'est à cause de cette médiatisation thérapeutique qui n'existe pas encore. Mais quand même, nous, au niveau de SOS Père Éducateur, une fois qu'on a les personnes qui sont positives, qui sont répertoriées, qui sont dans la base de données, on connaît leur adresse et tout, donc on fait des visites à domicile et des causeries éducatives. Et avec ça, on arrive petit à petit à les toucher un à un pour les intégrer dans la prise en charge. C'est une stratégie qui est difficile et c'est avec une longue haleine, mais il faut avoir du souffle aussi pour ne pas se lasser. Et c'est pas facile. Mais quand même, c'est une méthodologie qu'on a adoptée depuis plus d'un an. Et ça marche et ça donne beaucoup de résultats. Donc une fois que la personne l'accepte, on se donne rendez-vous. Parce que le relais, c'est lui qui va s'attacher à cette personne. Il donne rendez-vous à cette personne, il l'amène à Nouakchott ou à Nouadhibou. Arrivé à Nouakchott, moi par exemple, je désigne l'un de relais pour l'accueillir. Ou moi-même, parfois, je me déplace pour l'accueillir et prendre la relève pour l'amener dans le centre de traitement ambulatoire, faire le test de confirmation. Une fois que le patient intègre la prise en charge, là, on est rassuré d'une chose, c'est quoi? C'est que cette personne, elle aura ses médicaments pour 3 mois. Au bout de 3 mois, on va recontacter cette personne, voir. Parce qu'il y a parmi les patients qu'on a qui sont réticents de venir au CTA tout le temps. Donc nous, on prend aussi la responsabilité de leur fournir leurs médicaments.
Après, dans un deuxième temps.
Dans un deuxième temps, on a le code du patient. Donc une fois qu'on a le code, nous, on se présente au CTA, ils nous connaissent tous. Donc on vous leur dit, voilà, on a ce patient, le code des temps. Ils vont nous dire, oui, effectivement, il a une deuxième prise qui doit être administrée. Donc voilà, vous avez ces médicaments. Nous, on prend ces médicaments. Même s'il n'est pas à Nouakchott, même s'il est à Nema, à 1200 km, on peut le mettre dans une enveloppe, on le cache très bien, on fait l'écriture de son adresse et on l'envoie par le bus.
Et pourquoi tu dis on le cache très bien?
Parce qu'on ne veut pas que les gens sachent de quoi s'agit-il. Donc c'est top secret. Tout ce qui se fait entre le relais et le patient, c'est top secret. Par exemple, moi j'ai des patients que personne ne connaît au sein de SOS. Et lui, il a des patients que personne ne connaît. Et lui aussi, c'est pareil. Parce qu'on veut garder un peu l'anonymat, on ne veut pas que les patients soient discriminés ou que les autres les indexent. Parce que nous, c'est très important pour nous. Parce qu'en fait, la plupart de nos patients sont des populations clés. Les populations clés, quand je dis, ce sont les professionnels de sexe, ce sont les HSH, c'est-à-dire que c'est des hommes qui ont des relations avec des hommes. Et en même temps, la plupart sont des efféminés. Et une fois qu'ils sont là-bas, ils sont regardés par tout le monde.
À l'hôpital.
Et ça, ça les touche. Et parfois même, il y a des médecins qui refusent de les accueillir. Donc ça aussi, ça fait défaut au niveau du système sanitaire.
Mais quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, qu'il a le sida, mais qui est homosexuel, efféminé, tout ça, s'il va voir un médecin comme ça parce qu'il se sent malade, il risque d'être discriminé.
Ah oui, à la première vue. À la première vue. Il va les regarder comme soi-disant qu'il regarde une fourmi. C'est ce qu'ils nous disent. Ouais.
Bonjour. On a changé de quartier, là on est maintenant dans un quartier un peu périphérique de Nouakchott. On va aller visiter le centre de santé et c'est l'Am Teyaret. Donc c'est un centre de santé où viennent aussi des personnes qui se font dépister. Et il est animé par une association qui s'appelle Stop Sida, qui est la plus ancienne association qui s'est occupée de personnes vivant avec le VIH il y a maintenant 28 ans. On va rencontrer la secrétaire générale.
Bonjour.
Bonjour madame.
Merci. On va faire un tour du centre.
D'accord.
Je suis la secrétaire exécutive de Stop Sida, c'est Fatimetou. Ça c'est Aissata Ngaïdé, une sage-femme. Et là-bas vous avez Abdelkader, notre trésorier. On va vous montrer le centre et après, si vous avez des questions spécifiques.
Est-ce que vous pouvez juste commencer par m'expliquer, on va faire le tour, mais qu'est-ce que c'est ce centre en fait?
Oui. Ça, c'est un centre social. C'est pour une prise en charge intégrée, pour éviter la stigmatisation et la discrimination. On a toutes spécialités confondues, pour éviter que si quelqu'un rentre, on dit qu'il vient voir Stop Sida, c'est quelqu'un qui vit avec le VIH. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vient pour un problème ophtalmo, pour un problème dermato, pour une stomatologie. Et entre deux patients, peut-être qu'il y a un PVVIH.
Personne vivant avec le VIH.
Personne vivant avec le VIH, merci. D'accord. Donc, c'est une action intégrée, comme on le dit, de proximité en milieu périurbain, comme vous l'avez remarqué. C'est vraiment enclavé. Il y a les populations d'extrême pauvreté. Il y a des ouvriers, il y a des gens qui n'ont même pas de source de revenus. Il y a une population de moyenne.
Classe moyenne.
Classe moyenne. Il y a tout de temps.
D'accord.
Bon, on va faire un tour du centre.
L'association n'est financée que par des donateurs, insiste Fatimatou. Un fauteuil de dentiste flambant neuf, du matériel ophtalmo de pointe et, en haut des escaliers, une consultation prénatale où on parle un peu du VIH.
Là, c'est la salle où on fait la consultation des mères et des enfants. Je m'appelle Aïssa Tangaïdé. Je suis sage-femme, je travaille en collaboration avec l'ONG Stop Sida. Je fais les consultations gynécologiques et je fais le planning familial. Donc nous faisons des consultations 3 fois par semaine. Toute femme qui vient et qui exprime son besoin, il est pris en compte.
Et donc vous en profitez pour reparler forcément prévention sida?
Absolument, absolument. Et quand il y a quelqu'un qui est douteux, qu'on voit qu'elle a des signes, nous faisons un test. Ce n'est pas systématique. Donc, on parle de sida, mais on parle aussi du Covid, surtout en ce moment. Pour le sujet de sida, vous en reparlerez avec la secrétaire exécutive, parce qu'elle est plus à l'aise pour vous parler de ça.
Effectivement, quand nous demandons à Fatimatou si le fait que l'homosexualité soit criminalisée, tout comme la prostitution, si cela constitue un frein contre le VIH, elle ne mâche pas ses mots.
Je ne dirais pas que c'est un frein, parce que pour moi, ce n'est pas seulement les populations clés qui sont la cible. Les autres populations, elles continuent à être contaminées. Et il faut leur donner une importance, bien que les nouveaux partenaires techniques et financiers, ils font un focus vers les populations clés. Alors que nous, notre priorité, ce n'est pas les populations clés, notre priorité, c'est la population générale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Sur les chiffres, quand même, on passe de 0,8% pour la population générale à plus de 20% pour les HSH.
C'est normal, parce qu'il y a d'autres facteurs favorisants. Il y a les ulcérations génitales. S'il y a ulcération génitale, il y a des facteurs de risque qui augmentent. C'est pourquoi on parle de 0,8 ou 0,6 à 4%. C'est parce qu'il y a des ulcérations génitales, parce qu'il y a des infections sexuellement transmissibles. C'est des facteurs de risque et de vulnérabilité. Et c'est parce que c'est un groupe fermé qui continue à propager la maladie dans un groupe restreint. Plus de 90% des partenaires techniques et financiers. Il faut un focus vers les populations clés en disant ça, c'est le groupe vulnérable. Mais la population générale, elle est ignorée, elle est oubliée. Alors qu'eux, ils sont bisexués, ils peuvent constituer une propagation au niveau de la population générale.
Mais alors, quand vous avez commencé il y a 28 ans, il y avait quand même surtout peut-être une population homosexuelle, non? Que vous vous adressiez
à... En ce moment, on ignorait les populations à haut risque, les populations clés. Ils sont ignorés à l'époque. Ce n'était pas en vogue. C'est tout dernièrement que les gens commencent à faire de ça un folklore.
C'est-à-dire que, comment ça...
Il n'y avait que la population générale. À l'époque, il n'y avait pas de population clé.
On ne savait pas que les gens étaient homosexuels, mais on les soignait. C'est ça que vous voulez dire?
Ce n'est pas parce qu'on ne savait pas. On ne croyait pas qu'il y avait des populations clés au sein de la population mauritanienne. Avec le contexte socioculturel, religieux, on croyait que c'était un problème pour les autres. Mais après, avec le mouvement de masse, avec l'immigration... Ils sont venus s'implanter.
Ils, c'est les homosexuels?
Moi, je ne les appelle pas comme ça. Moi, je les appelle population clé. Ils ont commencé à pousser comme des champions. Et ils font de leurs activités des activités génératrices de revenus. Avec leur comportement, ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils savent que les partenaires techniques et financiers font un focus vers les populations clés. Et plus de financement orienté vers les populations clés que les populations générales et autres. Je ne mâche pas mes mots, je suis très directe.
Donc votre association, finalement, elle est un peu désavantagée par la nouvelle stratégie?
Non, on n'est pas désavantagée. Nous, on est venus convaincus, on a une équipe engagée, dévouée. Avec ou sans financement, on va continuer. C'est l'idéal d'avoir un partenaire, comme dit notre président qui est un érudit, un religieux. C'est un ancien ministre de l'orientation islamique. On a un réseau de champions de religieux qui nous accompagnent. C'est notre alliance. Mais après, le fait de travailler avec les populations clés dans le souci d'un changement de comportement, dans le souci de rompre la chaîne de contamination, c'est l'idéal. Si on travaille avec les populations clés parce qu'il y a de l'argent, ce n'est pas permis pour s'obstiner.
Cette approche qui consiste à traiter finalement les malades du VIH comme tout autre patient, cette volonté d'intégration rejoint un peu la nouvelle stratégie du gouvernement mauritanien. Il faut essayer désormais de soigner les malades au plus près de chez eux, dans les hôpitaux régionaux. Car jusque-là, tout, et notamment les examens biologiques qui permettent de mesurer la quantité de VIH dans le sang, les fameuses charges virales, tout ne se fait que à Nouakchott. Or, c'est en train de changer, nous assure ce représentant du ministère de la Santé.
Moi, je m'appelle Anne Ahmed Tijane. Je suis le directeur de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Je suis médecin de santé publique. En fait, depuis mars 2020, le ministère a entamé un processus d'abord d'intégration de la prise en charge des malades. Ça veut dire que tout simplement, au lieu que ce soit des entités séparées, vous avez des gens qui vivent avec le VIH qui sont pris à part. Au lieu de le faire à part, il faut le faire dans le système de soins. Pour que, tout simplement, que le système étatique prenne le relais au cas où le partenaire ne donne plus le financement.
Mais on en est où là-dedans? C'est déjà appliqué? Pas encore?
C'est déjà appliqué. Ouais, la charge générale, vous avez des équipements qui sont dans les structures de l'État, soit dans les hôpitaux ou bien au niveau du CTA que vous avez parlé, ou bien au niveau de l'Institut national de recherche en santé publique.
Moi, je ne comprends pas, parce que nous, on nous a expliqué que c'était quand même encore très centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de décentraliser, mais aujourd'hui, ce qu'on a compris, nous, c'est que pour l'instant, c'est très centralisé, notamment en ce qui concerne la charge virale. On nous a dit que le seul endroit où on faisait la charge virale, c'était à Nouakchott. Donc, est-ce que c'est juste ou pas?
Actuellement, la situation est telle qu'elle était il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Mais l'ambition du ministère de la Santé, c'est qu'on arrive à faire la charge virale au niveau des régions. Parce qu'on a mis en place les équipements qu'il faut pour faire la charge virale. Et on est dans un processus pour les améliorer. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des équipements, il y a eu plein d'autres choses. On est sur plusieurs sentiers. Nous aurons d'ici peut-être le 12 de ce mois, nous aurons la formation de quelques IPEC en Mauritanie.
Vous allez ouvrir des nouvelles
on
unités?
On va ouvrir de nouvelles unités, c'est-à-dire à peu près 7 IPEC, je crois, ou 6. 6 qui va amener le nombre à 12, effectivement. Ah. Nous allons travailler dans le sens de l'intégration au niveau des hôpitaux.
Donc c'est ça, vous allez inclure tout ça.
Inch'Allah.
Merci, monsieur le DNT. Et je pense que le secrétaire exécutif et le DNT ont consommé tout le temps de la conférence de presse. On va les libérer.
Les UPEC sont ces unités de prise en charge locales, censées accueillir les malades du VIH en région. Si le docteur Tijane a dû s'éclipser très vite, l'homme qui est venu parler au nom des personnes vivant avec le VIH à cette conférence de presse tient à lui répondre. Mohamed El Mouloud vit avec la maladie depuis 20 ans, grâce aux ARV, aux traitements antirétroviraux qui bloquent la réplication du virus. Mais il s'inquiète, car la situation est en train de se dégrader.
Au niveau de la prise en charge, il n'y a plus de prise en charge. Il n'y a que des gens qui vous donnent le traitement ARV seul. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de temps, même le temps. Parce qu'on a constaté qu'au niveau régional, le médecin, il est là pour tous.
Pour trop de malades.
Pour trop de malades qui ne sont pas VIH. Et quand il est au VIH, ils n'ont pas de service à fournir. Parce que quand on a seulement les ARV, on ne peut donner que les ARV. Quand on ne peut pas faire des analyses pour nos patients, ça veut dire que le suivi du patient n'est pas utile. Quand on ne fait pas des analyses comme la charge virale, le CD4 et les analyses de routine, nous avons demandé au ministère, nous avons écrit au ministre pour lui dire que vraiment cette prise en charge commence à se dégrader. Le ministre ne nous a même pas répondu. Ils ont fait une réunion, ils nous ont invités, mais ce n'était pas le ministre, c'était le directeur général de la santé. Et ils nous ont imposé cette intégration, comme ils ont dit. On a dit qu'on n'est pas d'accord sur cette intégration parce que...
La décentralisation, c'est ça?
Ce n'est pas la décentralisation. La décentralisation, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut décentraliser, mais il faut améliorer ce qui existe, ce qui est là. Il faut que la prise en charge soit correcte pour les patients au niveau du CTA et des unités de prise en charge qui existent. Et après, on est prêt à décentraliser. Mais eux, ils veulent intégrer. Intégrer, ça veut dire qu'ils veulent que le VIH soit traité comme la tuberculose, comme les autres maladies, avec n'importe quel médecin. Ça, ce n'est pas possible. Où est-ce qu'on peut trouver les ARV? Ils disent on va mettre les ARV au niveau de même des postes de santé. Je leur ai dit, mais postes de santé, vous n'avez pas pu faire 6 unités de prise en charge qui marchent bien, correctement, et vous voulez maintenant nous dire on va décentraliser jusqu'au poste de santé. C'est illogique. Et il faut, quand il faut décentraliser, il faut savoir combien, par exemple, vous n'avez jamais fait une étude dans une région où il n'était pas couverte. il faut savoir combien de personnes leur envoyer le traitement ARV. Parce que le traitement ARV, s'il reste dans une unité de prise en charge pour 6 mois, s'il n'est pas utilisé, ça va périmer. Donc, il faut faire avec ce qui existe maintenant parce que quand il ne sait pas...
Excusez-moi. Donc, le monsieur du ministère de la Santé qui nous dit dans 2 semaines ou 3 semaines, il va y avoir l'ouverture de 6 nouvelles unités de prise en charge dans les régions qui ne sont pas couvertes, ce monsieur, il dit, en quelque sorte, il ne dit pas la vérité.
Justement, je vais revenir pour vous dire que c'est un financement du Fonds mondial. Ils ont acheté le matériel et la formation des gens dans les hôpitaux, dans les régions qui n'ont pas été couvertes par la prise en charge. Donc, ils veulent former les gens.
Ils ont été formés
Ils vont être formés le 12 octobre avant que l'échéance des financements soit complètement bloquée. C'est de l'argent qui est déjà là, donc il faut en profiter. Nous, on n'est pas contre la décentralisation, mais on est contre qu'on va intégrer la prise en charge dans d'autres structures qui ne sont pas adéquates pour les personnes vivant avec le VIH.
Pour l'instant, on l'a compris, l'essentiel des soins se fait au CTA, le centre de traitement ambulatoire qui se trouve à Nouakchott. De 2004 à 2017, ce CTA a été administré par la Croix-Rouge française, mais l'État mauritanien a voulu reprendre ensuite la main. Le docteur Mohamed Valmaazouz a été médecin-chef de cette structure jusqu'à l'an dernier. Il a démissionné pour raison de santé, mais il n'approuve guère l'évolution de la situation depuis 2017.
Au départ de nos partenaires, les gens ont commencé à perdre leurs acquis, en fait. Un petit exemple, on avait un kit alimentaire qu'on donnait aux patients chaque mois, un kit très important, c'est du riz, c'est beaucoup de choses, mais depuis que nos partenaires sont partis, on n'a plus ce kit alimentaire qui n'est plus distribué. Beaucoup de choses, une prise en charge intéressante, le personnel était très bien motivé aussi. Il n'y en a plus. Les formations, au temps de la CRF, la Croix-Rouge française, on était formés, les gens étaient formés presque chaque 3 mois. Il y avait des missionnaires français qui venaient pour former les gens.
Et quand vous dites motivés, les gens étaient motivés à l'époque. Ils étaient motivés comment? Financièrement ou comment?
En Afrique, on commence par financièrement. Hein. D'accord. Ils étaient bien payés, les salaires venaient à temps, il n'y avait pas de problème du tout. Mais maintenant, en 2021, côté financier, leur motivation a été diminuée quand même. Je veux dire.
Leurs salaires ont baissé?
Oui, leurs salaires ont baissé. Plus de 50% a été baissé sans raison. La différence était claire. Même les patients l'ont senti, aussi le personnel a senti qu'il y a une différence entre ces deux choses-là.
Mais pourquoi alors? Pourquoi la Mauritanie?
Non, c'était une politique, c'était l'accaparement du VIH. C'est le côté national qui voulait s'accaparer du VIH, en fait. Ouais. C'était une question d'orgueil national. C'est ça qu'on l'a compris.
Retour auprès des officiels qui sont venus expliquer leur politique de lutte contre le VIH. Avec cette question cruciale, le virus du sida en Mauritanie circule 100 fois plus chez les homosexuels que dans la population générale. Alors, comment faire de la prévention auprès d'eux s'ils sont criminalisés par le régime? La réponse du professeur Sidi Ali, il dirige le secrétariat exécutif national de lutte contre le sida.
Alors, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Là, à l'instar des pays musulmans, la Mauritanie tire son code pénal du droit musulman. La Mauritanie a signé des conventions universelles sur les droits humains. La Mauritanie est un pays démocratique, donc il y a une scission du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif et politique. Et vous l'avez vu sur le terrain, vous avez vu qu'il n'y a pas de stigmatisation affichée, que les ONG interviennent sans entrave. Et comme on dit donc dans la culture mauritanienne et ailleurs, le non-dit est compris.
Alors justement, ben nous on n'est pas mauritaniens, donc je vais poser une question un peu différemment. Mais est-ce que ça veut dire que la criminalisation de ces populations clés, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, c'est quelque chose qui finalement ne s'applique pas en fait dans la vraie vie de tous les jours?
On peut le dire ainsi, effectivement. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ces peines appliquées.
Donc il n'y a pas de frein finalement à travailler avec ces populations, quoi, d'un point de vue en tout cas légal d'après vous?
Il n'y a aucun frein, au contraire. L'État veut pénétrer ces populations pour améliorer la riposte contre le VIH-Sida.
Nous voici chez Bessam. Il vit avec 9 colocataires dans 2 pièces à Nouakchott. Tous sont homosexuels et chaque nuit, un seul couple a droit à la chambre climatisée. tous font aussi de la musique pour des mariages. Mohamed a dissimulé ses jambes atrophiées sous un châle, le buste très droit, les cheveux longs et gominés. Il est le premier à vouloir parler.
Il dit que la société n'accepte pas leur orientation sexuelle. Et du coup, même quand on sort dans la rue, les enfants nous jettent des pierres et on nous nomme comme étant des homosexuels flagrants. Donc, du coup, on ne se sent pas à l'aise. Comme que je suis artiste, je sens souvent, quand je suis dans une cérémonie, avant que je commence à chanter, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Oui, l'homosexuel », et ils m'insultent de temps en temps aussi. Comme que je suis artiste, il y a une soirée où je sortais d'une salle de cérémonie. Je suis rentré chez moi, j'ai senti que j'étais suivi. Et arrivé chez moi, il y a une bande de jeunes qui m'ont agressé au sein de ma maison. Et ils m'ont beaucoup frappé jusqu'à que j'ai eu des écoulements de sang et tout ça. Et je suis même allé à la police parce que j'étais évanoui, en fait, parce que du coup, qu'ils m'ont bastonné et j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux.
En général, vous avez des problèmes avec la police ou ça va ?
Parfois, il y a des descentes de police, des agents de police, ils font des descentes chez nous. Là où on est. C'est pour cela qu'on n'est pas vraiment trop stable dans tous les endroits là où on est. Parfois, ils font des descentes et ils nous agressent. Et parfois, même, c'est de l'arnaque. Donc, c'est comme ça.
La police, elle est déjà venue ici ?
Non, moi. Chaque semaine, ils faisaient des descentes et ils viennent chez eux et ils leur disent « Voilà, vous êtes des homosexuels, on va vous amener à la police. » Et donc, vous payez de l'argent ou on va vous amener à la police et on va vous faire des procès-verbaux, on va vous emprisonner.
Toutes les semaines, ils venaient ?
Toutes les semaines, ils venaient pour les arnaquer, en fait, pour avoir de l'argent.
Et combien il fallait payer le commissaire ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ?
La police, quand elle venait, elle voit des beaux téléphones ou un bon téléphone, ils prennent même des chemises, même tout ce qui est dedans, même parfois ils arrachent leurs climatiseurs qu'ils ont. À la police, quand tu viens pour porter plainte en tant qu'homosexuel, à la police pour porter plainte, c'est toi qu'on va emprisonner.
Avec notre camarade, c'est qu'il est mort, notre camarade.
En fait, ils avaient un collègue qui a été agressé jusqu'à la mort. Moi, je le connais personnellement. Il s'appelle Dedahi, oui. Il y a même des médias qui l'ont publié ici.
Il a été assassiné.
Assassiné froidement dans la journée ici.
Mais parce qu'il était homosexuel.
Parce qu'il était homosexuel. Ça, moi, j'en suis témoin aussi. C'était en 2020, juste avant Corona, février 2020, ouais. Le malheureux dans tout ça, c'est que lui, lorsqu'il a été poignardé par les jeunes, il est resté jeté dans la rue. Tous les passants, quand ils passaient, ils disaient « Ah, ça, c'est un homosexuel ». Et c'est ce qui a fait qu'il a eu une hémorragie jusqu'à qu'il est mort. Donc personne n'a pu le secourir pour l'amener à l'hôpital. Après 7 mois, ils se sont sentis en insécurité. Et du coup, ils ont toujours été menacés. Même par téléphone, on les appelait avec des numéros inconnus qui les appelaient, qui les menaçaient de mort. Et ils leur disent, vous allez être comme votre ami. Ça veut dire qu'on va vous tuer comme votre ami.
Et quel impact ça a sur leur santé, tout ça?
Donc il dit que pour eux, en fait, ça les impacte beaucoup parce qu'eux, ils ont peur tout le temps, même quand le plus simple des maladies, même si un bouton ou une infection, il ne peut pas aller à l'hôpital et il va la cacher et il se développe jusqu'à qu'il devienne des infections incurables et beaucoup de choses. Même au sein de leur famille, même s'il a la fièvre, la famille l'isole, comme quoi qu'il est quelqu'un de maudit.
Quelqu'un de maudit ?
C'est très simple. Maudit, pourquoi ? Parce que si un homosexuel ou un HSH a une simple maladie, soit la fièvre, soit commence à avoir une chute de poids, les gens l'écartent parce qu'ils disent que peut-être il est infecté par le VIH. Donc du coup, c'est pour cela qu'ils ne les acceptent plus et soi-disant qu'ils ont amené le malheur et tout ça. Donc c'est pour cela.
Alors là, il nous ouvre un placard dans lequel il doit y avoir, j'imagine, des préservatifs. Ça, c'est pour moi.
J'ai acheté ça aujourd'hui. J'ai acheté un paquet il y a de 12. Hein? Pharmacie. Ça coûte 1500.
Ancien.
150.
150,
oui.
Pour une boîte.
Mais lui, il n'a pas le choix, il faut qu'il l'achète.
C'est beaucoup cher, plus cher qu'auparavant, mais nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on l'achète.
Ils sont cachés là ou pas?
Non, je prends une police.
Bon, moi, je vais vous donner les secrets. En général, ils cachent les préservatifs dans les coussins. Il a répondu que c'est parce que c'est très dangereux pour eux, parce que la police vient les ramasser quand ils ont des préservatifs avec eux.
Va les arrêter, tu veux dire?
Ah, bien sûr, sans raison. Ouais. Et même à plus forte raison quand ils trouvent avec eux le préservatif.
Je dis que pour la pharmacie,
si tu viens comme étant homosexuel et féminé, ils ne vont pas te le vendre. Mais il faut que tu sois comme un homme et tu montres tes muscles virils. Ouais.
Alors maintenant ils ont sorti, vous avez sorti les tambours.
J'ai fait les tam-tam.
Sida en Mauritanie, comment atteindre les plus vulnérables? Un reportage de Tara Schlegel avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Winnie Bianihima, directrice exécutive de l'ONU Sida. Alors on vient d'entendre les témoignages édifiants de jeunes homosexuels mauritaniens. Est-ce que la lutte contre le VIH peut vraiment progresser, Winnie Bianihima, dans des pays où les populations clés sont discriminées?
Yeah, what we have just heard from Mauritania de Mauritanie is quite similar to what is
est assez similaire à ce qui se passe dans les pays d'Afrique occidentale et centrale.
The early gains that were made to fight
les progrès qui ont été faits au départ dans la lutte contre le VIH ne sont pas poursuivis. Nous voyons aujourd'hui une augmentation du VIH, de nouvelles infections, de nouvelles contaminations, notamment parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les travailleuses du sexe, les femmes transgenres et les usagers de drogue. Parmi ces catégories de population, les contaminations augmentent. Nous voyons aussi parmi ces nouvelles infections beaucoup de jeunes femmes et des filles, des adolescentes. En fait, dans cette région d'Afrique occidentale et centrale, elle est particulièrement touchée par rapport à la population que ça représente. C'est une population de 8%, mais ça qui représente 8% des personnes qui vivent avec le VIH, mais 22% des morts liées au VIH se produisent dans cette région-là. L'année dernière, plus de 150 000 personnes sont mortes dans cette région de maladies liées au VIH et au sida. 200 000 personnes ont été contaminées. Donc on voit bien que c'est une région où il faut concentrer nos efforts sur ces groupes spécifiques qui sont vulnérables et les filles adolescentes et les jeunes femmes. En fait, chaque semaine, dans cette région, en Afrique occidentale et centrale, plus de 1000 adolescentes et 1000 jeunes adolescentes et jeunes femmes sont contaminées chaque semaine. C'est vraiment une urgence.
Alors, vous parlez des jeunes filles et des jeunes femmes. Qu'est-ce qui peut être fait pour réduire le risque qu'elles contractent le VIH?
There is a lot we need to do.
Nous devons faire beaucoup de choses.
First of all, it is to match the evidence of the epidemic
il faut
with
mettre les signes de... Il faut adapter notre réponse aux signes de l'épidémie et il faut affronter les inégalités. Les inégalités qui alimentent cette épidémie. Parce que nous avons les outils de prévention. Vous avez entendu, nous avons parlé du préservatif, nous avons parlé des traitements, de tous les outils de prévention. Nous avons également des tests. Nous avons des tests et des traitements qui vous empêchent de mourir. Mais la raison pour laquelle nous n'avons pas accès à ces outils scientifiques, ce sont les inégalités. C'est pour ça qu'il faut affronter les inégalités. Pour les jeunes filles et les adolescentes, il faut traiter cette question de leur vulnérabilité qui est liée à la discrimination que subissent les filles et les femmes. Par exemple, beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Les adolescentes ne vont pas au lycée, ce qui signifie qu'elles sont dehors, qu'elles sont dans la rue, qu'elles sont dans les champs en train de travailler et qu'elles sont vulnérables. Les hommes, les garçons peuvent leur imposer des rapports sexuels. La violence sexuelle est une cause. Nous savons aussi que dans cette région, il y a aussi beaucoup de mariages de mineurs, de filles qui sont mariées de force et qui menacent également ces filles d'être contaminées par le VIH. Donc il faut que les filles continuent d'aller à l'école. Il faut persuader, convaincre les gouvernements d'offrir une éducation gratuite aux filles comme aux garçons jusqu'au lycée. Et il faut évidemment lutter contre la violence sexuelle. Pourquoi elle est tolérée? On la tolère parce que quand ça se produit, le secret est maintenu dans la famille, au lieu de lutter par la loi contre ces violences. En ce qui concerne les hommes qui ont des relations avec des hommes, eux aussi doivent se cacher. Ils ont peur de parler, ils ont peur de venir se faire soigner, se faire tester. Donc il faut travailler sur les droits humains de ces groupes de population.
Mais alors,
pour qu'ils aient accès à ces services.
Justement, on entend bien qu'il faut déconstruire des idées fausses sur l'homosexualité, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu entendre, un folklore importé d'Europe. Quelle est la bonne méthode, selon vous? Est-ce qu'il faut essayer de faire passer des messages en douceur ou est-ce qu'il faut ne pas avoir peur de bousculer les mentalités en considérant qu'il y a une urgence à faire passer des messages pour que ça bouge?
No, we have to work with communities. Il faut qu'on travaille avec les communautés.
We have to work with the societies.
Il faut qu'on travaille avec
and
la société.
Change norms.
Pour changer les normes.
While at the same time maintaining the consensus of the
poursuivant tout en maintenant ce consensus.
Remember,
au sein de la communauté.
Every society has its
il faut se souvenir que chaque société a sa trajectoire propre et que chaque société définit ses propres normes. On ne peut pas les forcer à changer. Donc il faut utiliser des méthodes de persuasion. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans les communautés elles-mêmes. C'est en leur apportant de l'aide par des financements, de la formation, de l'information, que ces communautés peuvent venir se présenter comme des êtres humains qui mènent leur propre combat, comme tout le monde. Nous les soutenons. Mais nous savons, nous avons des indicateurs qui nous montrent que ces sociétés qui ne discriminent pas, qui sont capables d'accueillir, ce sont justement les sociétés aujourd'hui qui sont en train de gagner la lutte contre le sida.
Tara Schlegel.
Oui, dans le prolongement, je voulais vous demander, madame, si vous demandez quand même ouvertement aux autorités, par exemple, de ne plus criminaliser l'homosexualité. Nous, on a rencontré le représentant pays de l'ONU sida, Monsieur Mustapha Atir, hein, à Nouakchott, et lui, il a dit littéralement que effectivement, ils ont la possibilité de travailler comme ils le souhaitent avec les communautés homosexuelles, prostituées, et que les autorités ne mettent pas de barrières. Mais par contre, il a dit, et là je voudrais vraiment le citer, il a dit, c'est vrai, nous n'affichons pas que nous demandons ouvertement, avec des slogans, les droits de ces populations parce que ça pourrait irriter quelques-uns. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
In fact, Mauritania has an opportunity to
en Mauritanie, il y a l'occasion de mettre fin au sida et d'être peut-être le premier pays de cette région à mettre un terme à la maladie. Parce qu'il y a un accord entre le gouvernement, les communautés, les personnels de santé pour respecter les droits humains de tous et ne pas faire de discrimination et ne pas stigmatiser. Si même quand il y a une loi et qu'on n'a pas encore dépénalisé les choses, l'implication du gouvernement au service d'une politique de santé publique pour combattre la maladie et donner à tous accès à la santé, ça peut créer un environnement qui permette à chacun de venir chercher le traitement dont ils ont besoin, qu'il s'agisse d'ailleurs de préservatifs, d'un test ou de médicaments rétroviraux. Cette acceptation peut venir d'un consensus, d'un accord. Et c'est pour ça que nous essayons de travailler avec le gouvernement pour que, même en ignorant le droit, si c'est nécessaire, ignorer le droit pénal, ils puissent donner les moyens aux communautés et aux travailleurs de santé d'aider leurs personnes, d'aider leur population.
Et que pensez-vous de la stratégie de l'association Stop Sida qu'on a entendue tout à l'heure, qui ne veut pas s'adresser prioritairement aux populations clés et qui défend, elle, une autre stratégie tournée prioritairement vers la population générale?
You see, that is one of the mistakes that some countries make.
C'est l'une des erreurs que font certains pays. Ils ne veulent pas s'affronter à la véritable épidémie. Ils veulent traiter, répondre à l'épidémie qu'ils imaginent, qu'ils préféreraient avoir. Ça n'a pas de résultat. Il faut se fonder sur la science. Nous, nous rassemblons des données et nous sommes capables de dire à chaque pays, chaque année, le taux d'infection parmi telle ou telle population dans telle ou telle région. Nous sommes extrêmement précis à l'ONU SIDA. Et donc, il faut regarder les causes. Si vous n'êtes pas prêt à accepter que le VIH représente 24% dans une population clé et qu'il est en train de se développer parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et si vous dites « Non, je ne vais proposer une réponse que pour 0,6% une population qui a une prévalence de 0,6%, la population des hétérosexuels, alors vous ne ferez pas de progrès. Et l'épidémie continuera à se développer. Et nous ne devons pas non plus oublier que les hommes gays, les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, ont souvent également des rapports avec des femmes. La transmission ne se concentre pas que dans ces communautés. Elle est aussi transversale et elle augmente aussi la contamination entre les hommes et les femmes.
Donc,
quand on ne respecte pas les faits scientifiques, quand on ne les reconnaît pas, on ne gagne pas la lutte contre le sida. Et on en paie le prix encore plus fort à l'avenir, quand on voudra essayer de mettre un terme à l'épidémie.
Mais vous parlez des connaissances scientifiques, mais la formation des soignants mauritaniens semble insuffisante, puisque leur connaissance du VIH mérite manifestement d'être réactualisée.
You know, you're quite right, huh?
Vous avez tout à fait raison. Nous savons ce qui fonctionne pour mettre un terme à cette maladie, pour l'éradiquer. Il faut mettre les communautés au centre de la réponse. Ce sont eux qui connaissent leur population. Ils connaissent et respectent les gens qui vivent dans le pays. Et si on ne leur donne pas les moyens d'agir avec du savoir, des compétences, si on ne leur donne pas l'espace pour travailler, on ne peut pas gagner. Parce que la plupart du temps, les gens qui sont vulnérables ont beaucoup de raisons qui les empêchent d'avoir accès au centre de santé. Parfois, ils sont très pauvres, ils ne peuvent pas se le permettre. Ou alors, ils craignent la discrimination, la stigmatisation, l'humiliation, les violences. Ils craignent parfois même d'être arrêtés si le droit pénal était appliqué. Donc, à moins d'amener les services au cœur des communautés et à moins de permettre aux communautés de s'aider elles-mêmes, on ne peut pas gagner cette lutte. Donc oui, vous avez raison. Il est tout à fait important de donner les capacités d'agir aux communautés.
Tara. Oui, je voulais vous demander ce que vous pensez de ce que raconte l'ancien médecin-chef du CTA, donc du centre qui accueille le plus de malades, qui est à Nouakchott. Et il a expliqué que les salaires des agents, donc des infirmiers, des médecins, ont été divisés par deux ces dernières années, depuis que la Mauritanie, en quelque sorte, a repris le contrôle de la lutte contre le VIH. Avant, c'était la Croix-Rouge française qui gérait ce centre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Parce que apparemment, depuis que les salaires évidemment ont diminué, les gens sont beaucoup moins motivés. Ça paraît une évidence.
Absolutely, you are right.
Vous avez raison, absolument. Les ressources ont diminué. Et en particulier, les moyens dédiés aux communautés pour apporter des services.
Taking us back.
Et c'est ce qui est en train de nous ramener en arrière. Nous devons travailler dur pour augmenter les moyens, les ressources pour la réponse au sida, mais principalement pour les communautés. C'est pour ça que je suis en France aujourd'hui, à Paris. C'est pour chercher à travailler davantage avec le gouvernement français, qui est le deuxième principal bailleur au Fonds mondial, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce sont les deuxièmes principaux bailleurs. Mais je suis en train d'essayer de les persuader d'augmenter encore ces moyens pour les communautés. Et de développer des infrastructures communautaires où les gens se sentiront en sécurité pour venir chercher les services dont ils ont besoin. Et je pense que nous avons cette volonté. J'espère que les bailleurs feront davantage, mais aussi les gouvernements. Les gouvernements doivent donner priorité à la santé de tous. Et pas uniquement de ceux qui sont riches, qui sont dans les zones urbaines. Il faut aussi donner priorité à ceux dont les droits humains sont affaiblis. Et on ne peut pas les toucher sans financer leur communauté pour que celles-ci puissent toucher leurs membres. Donc il faut encourager les gouvernements à investir davantage dans les systèmes de santé qui fonctionnent pour tout le monde et qui ne privilégient personne.
Et c'est en 2030 que vous espérez éliminer le sida en Afrique de l'Ouest et du Centre. On voit encore toutes les difficultés à surmonter pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup Winnie Bianima. Merci Marguerite Capel pour la traduction en studio. La traduction sur place en Mauritanie était assurée par Salma. Sida en Mauritanie, comment atteindre les plus vulnérables? Le grand reportage de cette semaine était signé Tara Schlegel. Réalisation Annie Bro avec Dimitri Paz à la technique. Un grand merci, comme chaque semaine, à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et elle est aussi disponible sur franceculture.fr.